MMR 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, le babillard d'entrée vous est présenté par Thomas pour une fois, allez hop.
Eh bien bienvenue, nous sommes le 25 juin 2005, comme tous les samedis nous ouvrons avec le magazine Supplément Week-end, BD, cinéma, télévision, puis le cahier du sport. À partir de 15h du mix avec Yaka Roulé, à 17h Vie d'ordure, 21h30 Liquid Sky et 23h Breakbeat Experience.
Ah bah tu vois, maintenant tu es capable de le faire, t'es comme un grand là.
Merci.
Ah bah voyons, qu'est-ce que tu veux sur FMR, on n'est pas des couilles quand même, s'il te plaît. Non, on a de la tenue, bordel de merde.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
J'espère bien, oui. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
C'est Supplément Week-end, c'est l'émission numéro 33, je crois.
Ouais, dans ces eaux-là.
Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Ça tombe bien, c'est bientôt l'été. Bah non, on va pas tout de suite faire une programmation spéciale plage, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, un peu de fête de cinéma, quelques BD, du délire comme d'habitude, et bienvenue! Les Frans Ferdinand. Absolument, superbe album d'ailleurs.
Ouais, bon choix, ouais.
Ouais, on sait pas s'il y en aura un deuxième. Je me suis bien planté quand même au début, le babillard, voilà. Enfin voilà, c'est supplément week-end, donc un programme un petit peu allégé, parce que la semaine dernière j'ai épuisé pas mal mon stock de BD. Toi t'étais pas là, hein, tu te l'as coulé douce, mais moi j'ai eu deux semaines de boulot, mon popo. Mon petit coco, c'était... Oula. Donc du coup, ben, un programme un peu allégé si je puis dire. Pourtant l'actualité ne fait que continuer dans le domaine artistique tout comme ailleurs, hein, ça on s'en doute pas. Primo, on va profiter un peu qu'il fasse un peu moins chaud pour nous, pour pouvoir... hein, parce que je vous dis pas, en cave, dans le studio...
Oui, il fait pas très frais, quoi.
Voilà, hein, et encore, chez moi, c'est peut-être pire. On va commencer les news BD avec la mort de Charlie Schlingo. Le dessinateur, donc, Charlie Schlingo, est décédé à l'âge de 49 ans. C'était le 17 juin dernier. Il s'était fait connaître dans le milieu du fanzina dans les années 80, puis dans les revues satiriques, ça soit dans Charlie Hebdo, puis Harakiri. Et puis, après, dans les magazines plus spécialisés bande dessinée, comme Le Psychopathe Illustré, Charlie Mensuel, L'Écho des Savanes et à suivre. Son trait était simple et percutant. Ses textes emplis de décalages poétiques assez étonnants. Parmi ses derniers personnages, Canotor, dessiné par Pyrrhus dans Ferraille Magazine. Donc c'est vrai que c'était pris, c'était lié d'amitié avec les Requins Marteaux pour leur côté nonsense et tout ça, ils aimaient bien. Et parmi ses albums, qui a commencé en 79, hein, aux éditions de la Tour et ensuite chez Magic Strip, donc tous les éditeurs alternatifs. Donc il y a parmi ses albums Gaspation, Trip Sleep, Les Saucisses de l'Exploit, Une Cuite S'il Vous Plaît. Donc déjà ça vous donne un peu l'idée de l'univers dans lequel il tournait. Et chez les Requins Marteaux, ben, Onulf, Le Cybernéticien et Grosse Bitre avec un, avec un R. Voilà. Ouais, ouais, ben, voilà, Charlie Schlingo, tu vas nous manquer. À côté, news plus économique. Si je puis dire, puisque Panini Comics, qui édite déjà les Marvel, les comics Marvel en France, vient de reprendre le catalogue DC et l'intégralité des titres DC, que cela soit Batman, Superman, mais aussi Flash, Wonder Woman, Green Lantern et les autres. C'est-à-dire, ils ont les deux plus grosses boîtes en distribution exclusive sur le domaine francophone, les deux plus grosses boîtes à super-héros des États-Unis, hein, puisque n'oublions pas Super Dupont, le super-héros français. Je ne pense pas qu'il fasse un poids, donc évidemment, cette annonce, juste au moment de la sortie du film Batman et Année Zéro, ils doivent être super contents. Delcourt, Semic et les autres, à mon avis, ils doivent faire un peu la gueule. Enfin bref, ils vont reprendre Batman, Superman, la Ligue des Justiciers américains, la GLA, Green Lantern, ce n'est qu'un début puisqu'ils nous annoncent Identity Crisis, Countdown of Infinite Crisis, autant de rendez-vous captivants et accessibles qui attendent les lecteurs français au cours des années à venir.
Oui, sans compter les films avec le projet cinéma de Superman réalisé par Bryan Singer aussi qui sortira dans pas longtemps.
Voilà, exactement.
Ils ont du nez.
Ils ont, enfin à mon avis, ils ont dû sortir le chéquier. Ouais. Panini, c'est, vous savez, c'est les éditeurs de vignettes autocollantes à collectionner là de footballeurs. Ouais. Voilà, ils font pas que ça. Pourquoi pas, hein, après tout, tant mieux pour eux. C'est clair que ces mics là, ils vont plus se tourner à mon avis vers des entre guillemets indépendants aux États-Unis, c'est-à-dire Dark Horse et compagnie. En tout cas, faudra éviter peut-être qu'ils Marvel DC, c'est quand même énorme quand même, hein. Marvel DC dans la même boîte quoi. Faudra quand même pas que Panini Comics se sclérose trop autour de ça. C'est clair, c'est une machine à faire du fric, mais la maison des idées, elle en a sérieusement manqué quand même. C'est depuis 2-3 décennies.
Continue les news.
Bah oui, vas-y, je t'en prie. Oui, excuse-moi, bon, puisque c'était Batman Origine, c'était la transition. Excuse-moi, j'ai oublié.
Non, mais c'est pas grave, hein. Non, moi, c'est vrai que ça va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, mais je pense que je vais faire part de mon intérêt pour ma petite marotte pendant quelques mois. Là, ça va être l'adaptation cinéma de Silent Hill de Christophe Gans, parce que à chaque fois que j'aurai des infos, je pense que je viendrai vous en parler à l'antenne. Xavier, je pense qu'il va falloir réfléchir à un petit jingle sympa. Hein. Donc là, on connaît maintenant une partie du casting du film. On sait déjà que l'histoire, ça nous présentait une mère qui est à la recherche de sa fille. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Silent Hill, on va voir, ce sera l'occasion de voir le personnage féminin aux prises avec ses peurs les plus primaires pendant tout le film.
En vrai,
en vrai. Et on sait que c'est Radha Mitchell qui incarnera la mère. Radha Mitchell, donc, qui est apparue récemment dans Melinda et Melinda de Woody Allen et qui avait été révélée par Pitch Black.
Joli panel, quoi.
Ouais, habitué au cinéma de genre. Et à ses côtés, un mec qui a plus rien à prouver, c'est Sean Bean, qui était présent dans donc, la trilogie Lord of the Ring, en incarnant le rôle de Boromir. Était déjà un habitué des films de genre, il avait joué dans Jeux de guerre, Ronin, etc. Bon, mais de toute façon, c'est une gueule, hein. Voilà, et sachez que dans le score de ce mois-ci, donc on est à la fin du mois de juin, mais vous pouvez toujours vous le procurer, il y a une interview de Roger Avary, producteur et scénariste de Silent Hill.
D'accord. Moi, je me suis fait avoir sur le tracking list, voilà. On va entamer sur la bande dessinée, mais là, on vient de me passer un papier.
Dépêche.
Ouais. On m'annonce que c'est ton anniversaire, Thomas.
Oui.
C'est... Je sais, ça se fait pas à l'antenne. Alors, franchement, tu me fais pitié. Allez, hop. Je sais, on avait prévu en privé.
Merci. Bon, bah ça se fait pas de faire des surprises à son collaborateur en direct.
En direct, ouais, non, mais j'y tenais, voilà. Bah, vas-y, ouvre-le.
Bon, allez.
Ouais, vas-y. Allez, hop. Vous êtes sur Radio FMR, tout est normal. Il est midi et 11 minutes dans Supplément Week-end.
Ah, bravo.
Eh ben oui, parce que le casque de papa, il est sympa, mais...
Ah, ouais, écoutez, l'émission en mono, ben merci beaucoup.
Eh ben non, bah écoute, décrafle-le et teste-le, là. Je te laisse le temps. Hop. Parce que c'est un peu... C'est vrai que c'est une des choses en radio qui est assez importante, c'est avoir un casque, de préférence un casque bien à soi, parce que les casques de Radio FMR sont plutôt malmenés. Malheureusement, l'ampli aussi de Radio FMR est très malmené. Perds pas la garantie, tu vas en avoir besoin, à mon avis. Parce que je l'ai eu, ce casque. Il est pas mal, il a des basses qui sont assez profondes. Tu verras toi-même. Et c'est assez important, effectivement, pour pouvoir se placer, savoir ce que fait l'autre, etc. Oui, je suis obligé de meubler, là. Ça, c'est un grand exercice de radio pendant qu'il est en train de dépiauter le truc. Ça, c'est du direct, s'il te plaît.
Je débranche mon casque.
Allez, hop. Bah non, tu te branches... Vas-y. Zou. Tu pouvais le brancher en parallèle, d'ailleurs, hein, pour avoir la différence entre les deux. Vas-y. Voilà, place-toi. Ah oui, il faut le régler et tout. Ça fait comment? Ah. Ouais, en plus, on a l'ampli qui est un peu pété. Mais à mon avis, tu vas avoir un son qui est un peu moins caverneux, là.
Oh, c'est génial. Je m'entends parler.
Et en plus, il est plus léger. Pour l'été, c'est plutôt pratique. Et ben, ça tombe bien parce que
le deuxième
cadeau est un cadeau interview Thierry Ardisson. Alors, Thomas Berthelon. Qu'as-tu retenu au cours de ta première saison radiophonique?
Oh, ben écoute, travailler avec un pro, c'est toujours une source d'enrichissement personnel. Et puis bon, ça m'a appris la rigueur journalistique. Et puis, c'est un plaisir à parler des choses qu'on aime bien, malgré tout.
D'accord. Toi qui es vidéaste, qui a réalisé des courts-métrages, que t'a amené la radio? Parce que tu fais des fictions d'ailleurs qui vont être en ligne à partir de cette semaine.
Oui.
Alors c'est l'occasion, vas-y.
Bah écoute, c'est savoir parler du travail des autres surtout et de pouvoir s'impliquer dans une volonté de faire passer des messages et des discours chez quelqu'un dont tu apprécies l'univers et dont tu ne connais pas vraiment certaines facettes, et justement faire des recherches pour faire des chroniques, ça permet justement d'aller explorer un peu plus les films des gens que t'aimes bien. Donc c'est un travail tout à fait intéressant.
D'accord. À côté,
salaud,
justement...
ça va durer pendant une demi-heure.
Non. Désolé, hein. D'un autre côté, devenir critique de cinéma, est-ce que ça t'a fait évoluer ta manière de penser en tant que créateur? Est-ce que toi, tu te dis, maintenant que je casse les autres, etc., est-ce que je vais devoir construire peut-être avec plus de détails, plus d'attention vis-à-vis de mes œuvres?
Donc là, tu essaies de me faire passer pour un méchant à l'antenne, alors que ne m'est arrivé qu'une seule fois de casser les autres, et je m'en mords encore les doigts parce que
c'était mérité,
c'était
attends.
C'était un exercice assez périlleux, mais... par rapport à ma production perso, non, ça apporte pas vraiment d'enrichissement, mais c'est vrai que je pense que ça m'a apporté beaucoup plus de facilité de parler d'intention, etc. Donc à partir de là, je pense que ça, c'est toujours intéressant de toute façon.
D'accord. À côté, donc Moi, j'ai envie de savoir quel est pour toi, quel a été le meilleur moment de cette saison.
Les meilleurs moments,
c'est le meilleur moment pour toi.
À part la première, qui était un grand moment. Je pense que toutes les interviews qu'on a faites. Les interviews.
Vraiment toutes.
Ouais. Si on peut trouver du plaisir même dans les interviews les plus pourraves. Mais...
On va les passer d'ailleurs pendant l'été pour combler, si je puis dire. On va passer quelques interviews qu'on a faites à Angoulême fin janvier dernier, notamment une interview à la Arte en sous-titrage. Il va falloir que je la monte, hein, celle-là.
Ah si, je viens de me souvenir, le meilleur moment, ça a été peut-être l'émission que j'ai préparée pendant 15 jours autour de John Carpenter.
Ah oui,
je
c'est là.
Secondais ton boulot de producteur avec un certain plaisir.
Et le pire
L'émission où je me suis le plus planté, je pense que c'était justement l'émission où j'ai essayé de casser Raxéphone et j'ai failli perdre mon meilleur ami à cause de cette émission.
Moi, je t'avais obligé à casser quand même une série que t'adules, les chevaliers du Zodiac.
Ah tiens, si j'avais oublié ça.
Elle était grandiose. Te sens-tu prêt à prendre la régie? Ah merde. Attends, ça va être chaud. Ouais, là, tout de suite.
Non.
Tout de suite, t'as 40 secondes.
40 secondes pour prendre la
40
régie.
Secondes pour prendre la régie. Allez hop.
Voilà, je suis de l'autre côté, comme dirait du sport, du côté obscur de la force, et j'ai Xavier qui est en train de s'exciter comme un malade à essayer de remplacer des CD à côté.
Alors tu vas annoncer le morceau suivant, c'est celui-là, c'est le I2, et le démarrage se fait sur cette piste.
Voilà, donc c'est Trash 80 feat Gem, le titre est I Will Go, et voilà. C'est tout ?
C'est tout.
Et j'appuie sur un bouton ?
Non, t'envoies. Tu montes ? Et du sport vient de dire, c'est quoi cette merde? Donc Trash 80, on l'a déjà passé, C'est un label électronique qui s'appelle 8-Bit People qu'on peut retrouver sur archive.org dans les labels musicaux. On avait beaucoup aimé d'ailleurs un des morceaux et puis voilà. Et je continue sur le single et donc la voix c'est une certaine Jem qui tient un site sur J'aime les hologrammes. Enfin ça vous pouvez chercher. Alors comme le webmaster la radio n'a pas pu s'occuper tranquillement du site cette année et qu'il a sérieusement laissé en chantier qu'il a pas mis le lien, donc on vous donne le lien direct de l'émission, c'est dascritch.net, dascritch.net. On redonnera dascritch.net. C'est cryptique à annoncer, c'est fait exprès, voilà. Yo bah là. Maintenant qu'on a fait la vacherie à Thomas, on va peut-être entamer. Excusez-moi. Ouais, non, je suis bon dans les trucs parce que là je suis en train de vérifier. Mais oh, oui, bah oui, j'ai changé ton micro. On va essayer celui de.
Le rouge.
Hein? Ah ouais, comment vas-tu, Duce?
Ça va.
Ça va, pas trop chaud toi en plus, tu es vraiment en première loge de l'été donc.
Je pense que. C'est quoi, c'est un maillot de Strasbourg ça?
Absolument.
Et t'as pas honte? T'es Strasbourgeois ou quoi? Parce qu'il faut en vouloir pour porter un maillot de Strasbourg quand même.
Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. On peut pas renier ses origines non plus. Quoi.
D'accord.
Merci d'avoir comblé. Donc, on va commencer avec une revue spin-off de PIF.
Ils ont pas terminé devant Toulouse cette saison.
Moi, je suis supporter de Bordeaux, c'est pire.
Hein. Oh, d'accord.
Je parle même pas de Bordeaux.
Merci, d'accord. Donc, un spin-off du PIF Gadget Magazine, un magazine pour les 4 ans qui s'appelle Glop Glop. Le numéro 1 vient de sortir en kiosque, il est mensuel, il coûtera 3,80€. Donc il s'agit d'un spin-off de PIF Gadget et comme premier gadget, je rappelle que PIF Gadget quand même, il y a des psychologues pour enfants, etc. qui bossent dedans, des pédagogues et tout. Donc on les félicite pour leur premier gadget qui est un crayon bien pointu, s'il vous plaît, pour les moins de 4 ans, bravo. Fallait y penser. Continuons.
Non, c'est dès 4 ans, attends, c'est dégueulasse là. Hein.
Bah,
c'est
oui.
Dès 4 ans, hein, c'est-à-dire que c'est interdit aux enfants sous 4 ans, quoi. Enfin, je veux dire, à cet âge-là, en principe, on sait déjà à quoi ça sert.
Dans l'œil. Et dans le genre repoussoir, une superbe couverture faite sous Quark Express. Alors, Quark Express est un logiciel de PAO.
De mise en page.
Voilà, de mise en page qui a 20 ans, qui est bourré de défauts et ils ont toujours pas été corrigés.
Ah, mais il y a Pifou, là.
Oui, c'est Pifou. Alors,
c'est Pifou,
donc,
là.
Oui, tout à fait, Pifou. Glop Glop. C'est pour ça que ça s'appelle Glop Glop. Donc, on continue.
D'accord.
La couverture faite sous Quark Express est faite par un stagiaire en PAO qui a visiblement un besoin quand même d'un petit peu d'assistance parce qu'une couverture jaune, flashy comme ça, avec des dessins qui correspondent mal, en ayant oublié d'inclure les images à l'export, ça donne cette espèce d'effet mosaïque du plus laid effet avec une composition plus qu'hasardeuse. Alors, si leur maquettiste a besoin d'un bon stage en PAO, je connais une boîte hein, où là on ne pardonne pas ce genre de plaisanterie. Voilà.
Mais c'est fait pour des gamins, hein, je veux dire.
Ouais, mais c'est moche quand même.
C'est pas la même vision. Hein. Eux, ils s'en foutent un petit peu, hein, des fois, hein, ce genre de trucs, de détails.
Des carrés hein, comme pour... ça, à mon avis, ils le voient encore mieux, tu vois. Enfin bon, c'est moche quand même. On va commencer avec François Cortegiani et Fanam en bande dessinée. Excusez-moi, moi j'ai oublié de sortir les books de mon sac parce que je voulais pas que Thomas boit trop vite son café. Avec les enquêtes de Simon Nian, Dessine-moi un maton, c'est dans la collection Paris-Bruxelles chez Glénat, une collection qui est orientée très ligne claire, et à mon avis c'est plutôt réussi, puisque c'est l'histoire d'une tentative d'évasion, celle de Boris Dolovine, où malheureusement il va trouver la mort. Le milieu de la bande dessinée est en deuil, car ce Boris Dolovine, ce maton qui s'enfuit d'Europe de l'Est, est un génie qui signait de ses initiales BD. Du moins, tout le monde pense qu'il est mort, mais ses ex-proches qui se déchirent son héritage reçoivent des menaces de mort dessinées. S'agit-il de vrais dessins ou de faux dessins? Pour démêler le tout, c'est un bavard, l'avocat Simon Nian, amateur de bande dessinée, fortuné puisqu'il a des planches originales dans son cabinet d'avocat, qui va mener l'enquête. C'est un hommage à Maurice Tilleux. Maurice Tilleux, dont la fille d'ailleurs signe la préface. Maurice Tilleux, c'est le dessinateur de Félix, une bande dessinée qui sortait dans les années 40-50 dans Detective Magazine, non, Heroic Comics, excusez-moi, édité par les éditions mondiales, et de Gilles Jourdain dans Spirou, et on le retrouve dans le trait, c'est assez bien fait, aussi bien dans la forme que dans le fond. Et quand je dis dans le fond, Les éditions du Rayon, ça devrait titiller les connaisseurs de bande dessinée, surtout pour la devise pas encore publiée, déjà soldée.
Oui. Il va paraître.
Ouais, ouais, mais surtout quand tu vas voir qui est l'éditeur des éditions du Rayon apparaît dedans, ça ressemble pas à un certain Farid Boudjelal, patron des éditions Soleil, qui...
Non, Mourad.
Oui, Mourad, excuse-moi, Farid, c'est le dessinateur. Mourad Boudjelal, dont tout le monde l'accuse de mettre très vite dans les bacs à solderie les bouquins pour éviter d'avoir à payer les invendus, quand même, c'est très fort. Et après, eh ben, il y a la double page interne. Donc quand je dis un clin d'œil à la bande dessinée du sport, une double page en bleu comme ça. Dans les Spirou hein, et
ouais,
compagnie.
Ouais, c'est ça, hein,
et c'est les Gilles Jourdain. Tiens, cadeau. Je suis sûr que ça va faire plaisir à tes gamins affichés.
Ah ouais, ouais.
Ça c'est vraiment le style graphique, on le retrouve, c'est étonnant. Alors moi je sais pas si ça fait partie du dossier de presse, mais en tout cas ce bleu qu'on retrouvait entre les couvertures
entre
et les
entre les
cahiers.
Couvertures et les cahiers, c'est ça.
Voilà.
C'était le deuxième, troisième et dernière là-bas, les deuxième et troisième de couverture. En
fait. Voilà, et c'est vraiment un plaisir à lire. Enfin,
ce qui faisait la reliure, quoi.
Ouais, exactement. Elle est intense, c'était cette collection de tableaux, et dans les Spirou, donc il y avait ces scènes d'action et tout ça, donc là-dessus, c'est un bonheur. Les enquêtes de Simon Nian, c'est un premier tome de cette nouvelle série, Dessine-moi un maton, c'est pour les amateurs de bande dessinée, tout comme on avait parlé l'an dernier de Canardo, c'est la même chose. François Cortegiani au dessin et au scénario avec Farnham. François Cortegiani, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui faisait l'école Abracadabra dans Mickey Magazine, et il faisait plein de séries plutôt amusantes et rigolotes, et là il a fait un truc spécialement pour les amateurs de bande dessinée, pour les coureurs de dédicaces et tout. Il est brocard, le milieu de l'édition, le milieu des veuves éplorées qui font des seconds mariages heureux, allusion directe à Hergé d'ailleurs, à Fanny, Rémi, donc la deuxième épouse et veuve d'Hergé qui est à la garde de Tintin. Donc tout y est, c'est un bonheur. Dessine-moi un maton, donc c'est le premier tome et c'est dans la collection Paris-Bruxelles chez Glénat. Mr. Scruff, comme ça, c'est pour enchaîner avec le Liberté. Donc, le premier tome s'appelle Le Septième Tueur. C'est dans la collection Graphica chez Glénat, par un vieux routeur de la bande dessinée qui s'appelle Pierre Guilmard, qui a vraiment un dessin là aussi, vraiment le dessin des Spirou, Tintin et compagnie. On le retrouve vraiment. Non, mais ne le montre pas, tu me l'as dit tout à l'heure en antenne, on fait pas de la
télé.
De la télé, on fait de la radio. Donc le Liberté, eh ben, c'est le personnage principal de l'album. C'est un de ces gigantesques transatlantiques qui faisait la liaison régulière, Le Havre-New York, en trois classes, de la plus économique à la plus indécemment luxueuse. Car malgré la crise de 1929, ça se déroule quelques semaines après donc octobre noir de 1929, où tous les banquiers, capitaines d'industrie, rentiers se défenestrent à qui mieux, on a toujours besoin de faire le lien entre l'ancien et le nouveau monde. Parce qu'après tout, qui, en 1929, aurait franchement envie de s'enfermer dans une boîte de conserve volante au confort incertain? Bon, voyons un peu de sérieux, alors qu'un paquebot, un transatlantique, c'est la classe. Enfin, le problème, c'est que cette traversée promet d'être mouvementée entre deux divas qui ne peuvent se sentir et des meurtres en série dans la première classe. Une double catastrophe pour l'équipage, car cela signifie pour les serveurs et les chasseurs moins de pourboire et plus de tracas. Bah oui, tout de suite, quand la clientèle fortunée, qui déjà a été sérieusement mise à mal avec la crise de 1929, se retrouve face à des histoires de meurtres qui les ciblent directement, on a pas trop envie de donner de l'argent. Bref, le petit personnel s'en plaint un peu. Le steward Albert et le groom Philou sont aux premières loges de ce monde où on ne sait plus se tuer avec courtoisie. Ou alors presque. C'est de l'Agatha Christie, manière franco-belge, avec un humour assez acide. C'est un bonheur à lire, en tout cas c'est assez rigolo. D'ailleurs le groom a un costume à la Spirou, mais tout en vert. Et c'est vraiment un album qui est à découvrir pour son côté désuet, son côté Agatha Christiesque justement le côté bande dessinée des années 50. C'est un beau cadeau pour son papa, ça, ouais, tiens. Malheureusement, la fête des pères s'est passée. Le Liberté, le premier tome s'appelle Le Septième Tueur, c'est dans la collection Graphica chez Glénat, c'est de Pierre Guillemard. J'étais presque en rythme. On continue avec Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto, l'auteur d'Albator, etc. Alors l'autre jour, je me suis retrouvé con à discuter avec une fille qui me disait « Ouais, mais vous me parlez d'Albator et tout, et je ne connais pas. » Faut dire que la fille en question est russe. Effectivement, c'est le moyen idéal pour dénicher ces agents infiltrés du communisme et tout, qu'on a vaillamment viré de Radio FMR, d'ailleurs les communistes. Enfin bon, on va pas revenir sur ces jeux de mots idiots et stupides. Donc Leiji Matsumoto, c'est le créateur de Albator, et aussi d'une autre série qui est très peu connue en France, mais qui a fait un énorme carton au Japon, Galaxy Express 999, qui se passe dans un futur où une gigantesque machine à vapeur traverse l'espace pour amener des gens vers une planète où on donne des corps cybernétiques gratuitement, à condition d'avoir le pass pour entrer dans cet Orient Express absolument fabuleux. Le cinquième tome s'appelle La Terre Promise du Silence, c'est dans la collection Kana chez Dargo, et la mi-chemin est déjà parcourue donc pour Tetsuro, cet orphelin qui a quitté une terre complètement massacrée et ruinée, pour aller sur la planète où on donne ces fameux corps robotiques gratuitement. Je vais pas en raconter plus, on en a déjà parlé. Mais en couverture, Maëtel est déjà en maillot. Ah, ma foi, c'est peut-être signe de l'été, ça. Et Leiji Matsumoto est un gros amateur de musique. Il a fait, par exemple, le film Interstellar 555, sur proposition des Daft Punk, qui ont fait demander de lui faire les clips de l'album Discovery. Et figurez-vous que c'est un gros amateur de Wagner. On en a parlé, de musique classique. Il avait commencé dans les années 60 à publier des nouvelles dans FM Recordu, je sais plus le prononcer, un magazine spécialisé des amateurs d'électronique, d'IFI, etc. Où il racontait les débuts de Akihabara, le quartier électronique et tout ça. Sauf que là, c'est son œuvre maîtresse qu'il est en train de sortir actuellement, l'Anneau des Nibelungen. Il s'agit donc de la tétralogie de Wagner, vue dans l'univers d'Albator. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Et donc le cinquième tome s'appelle La Voile qui risque, toujours édité chez Kana, aux éditions Dargo. Pas tout de suite. Donc on découvre que Brunhilde, l'aînée des Valkyries, boit la coupe de l'amitié avec le père d'Albator et de Toshiro, à la fureur de Wotan, le roi du Voilà, qui l'avait demandé de détruire justement ces deux humains mortels qui vont dans le futur détruire le Voilà, qui se cache quelque part dans l'espace-temps. Et il a décidé de transformer l'orgue de Freya en cercueil de cristal où il enfermera les Valkyries d'un sommeil éternel, d'où l'on délivrera Siegfried, Fries de Sieglinde, pardon.
Et spoiler.
Eh oui. Désolé.
Allez hop.
Bon, je l'ai dit, le frise de Siegfried, le rôle est tenu donc par Albator. C'est assez étonnant, mais après tout, pourquoi pas. C'est plutôt réussi d'ailleurs de ce côté-là. C'est étonnant.
De toute façon, dans Saint Seiya, vous avez déjà eu une éducation au mythe de Siegfried. Hein.
On ne peut pas comparer. Je suis désolé. À la fin de ce manga, vous avez une histoire qui met en scène le dessinateur Leiji Matsumoto, sa passion des maquettes, sa femme qui a une passion pour le classique et son jeune gamin à l'époque, en comptant en parallèle la vie d'Herbert von Karajan, le plus formidable chef d'orchestre moderne, post-seconde guerre mondiale, à avoir immortalisé la tétralogie de Wagner avec une grâce digne du char tigre de la Panzer Division à l'Africa Corps. Et non, je déconne. Son perfectionnisme hallucinant n'avait d'égal que l'incroyable finesse de son interprétation. Et tout le monde connaît son interprétation personnelle, justement, de... La charge des Valkyries.
Là, on s'est trompé, non ?
Ouais, on a dû se planter quelque part dans la partition. Bon.
Il y a une odeur de napalm ici, non ?
Oui, je me disais, ça manquait d'hélicoptère. Bon, je déconne. Son perfectionnisme hallucinant n'avait d'égal que l'incroyable finesse de son interprétation. Il était bel homme, sa femme était, aurait pu être mannequin, elle était absolument superbe, et il était connu pour être absolument accouché dehors. Il était capable en studio de refaire la même page de la partition uniquement pour avoir une interprétation parfaite, puisque son idée à lui, c'était un enregistrement, ça doit rester à travers les âges. La fameuse pub BASF, des enregistrements pour s'en souvenir pour toujours, ça vient de là. Ça vient que Karajan était capable de refaire les enregistrements, d'aller sur le banquet pour dire c'est tel passage que l'on va prendre, etc. Et ça a fait des enregistrements qui, 40 ans après, ont gardé leur modernité. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on a un niveau d'enregistrement, c'était de l'analogique, mais d'une qualité assez étonnante, et toujours édité. Je crois que c'est des cas où c'est pas Deutsche Grammophon, hein, je me trompe. Et la légende veut qu'il soit mort devant le patron de Sony Music qui lui demandait de le faire en vidéo. L'enregistrement en vidéo, c'était en 89, je crois. Enfin bref, lui, il a toujours voulu une interprétation parfaite à travers les âges, ce qui a fait le bonheur de millions de mélomanes. Herbert von Karajan, jamais on a osé en parler dans un manga de SF, et pourtant, eh ben, Leiji Matsumoto l'a fait. Et pourquoi pas, on aime, on n'aime pas.
Après, moi, j'ai pas lu, mais il faut acheter le taxe.
Non.
C'est combien que le tome là ?
Ça c'est le tome 5 donc de l'anneau des Nibelungen. Il s'appelle Awalkiri, c'est de Leiji Matsumoto, donc on retrouve tout son univers, hein, Galaxy Express, Albator et compagnie, Cosmos Warrior et tout ça. Donc c'est dans la collection Kanashi Dargo. C'est une occasion de découvrir le classique, c'est assez étonnant, et voilà, et je vais peut-être passer, je suis en train de chercher la programmation musicale pour la suite, pour du sport. Bah oui, non, bah du sport pour une raison toute simple, c'est que je lui ai passé une BD la semaine dernière.
Oui.
Et oui, L'Aigle sans orteil de Christian Lax dans la collection Air Libre chez Dupuis. Donc vas-y.
Alors,
dopé de la semaine.
Pas du tout.
Non.
Quoique, à un certain moment, il y a des petites recettes comme ça, hein, mais plus pour soigner des bobos, des gros bobos, que améliorer la performance, hein, de toute façon. Quand on ouvre le bouquin, l'introduction, écrite par Christian Lax, démontre bien que c'est un amoureux de la petite reine, un inconditionnel qu'il est tombé dedans quand il était tout petit, hein, ça y a pas de problème, il le dit, hein, lui c'est dans les années 50, donc comme ça, ça nous donne à peu près son âge aussi. Hein. Et vu que ses idoles étaient Bobet, Anctil, Poulidor, Darigad et Bahamontès. L'histoire d'Amédée, l'aigle sans orteil, c'est l'histoire d'Amédée Fario, qui au début de l'histoire est militaire et fait partie de l'armée française postée à Tarbes, et plutôt que se faire chier, enfin lui c'est ce que lui pense personnellement, plutôt que se faire chier dans sa caserne à jouer aux cartes avec ses potes, à rien foutre quoi, comme font tous les militaires généralement en temps de paix, hein, c'est ça, hein, décide de se rendre plus utile parce qu'il est natif du coin, hein, des Hautes-Pyrénées. Et il décide de se rendre plus utile en participant, enfin disons, c'était pas amical, hein, c'est-à-dire c'était un ordre qui leur était donné, on prend une compagnie de compagnie, et ils étaient chargés de monter les caisses de matériel qui servaient à la fabrication du premier dôme du Pic du Midi. C'est au début du siècle, hein, l'histoire commence en 1906-1907.
Et à l'époque, le pic du midi, c'était des cahutes qui venaient d'être mis en solide, et c'est la construction en fait du dôme qui est utilisé actuellement pour
c'est ce que je viens de dire.
Du dôme qui est actuellement utilisé pour le télescope de 1 mètre.
Voilà. Et ce dôme, donc ces caisses de matériel pouvaient être montées jusqu'à une certaine altitude par des bêtes de somme, hein, genre des ânes, des lamas, des dahus. Mais au bout d'un certain moment, il n'y avait plus rien. Les bêtes de somme n'arrivaient pas à gravir les sentiers pour monter jusqu'au pic du midi, et là il n'y avait plus qu'à deux dômes qu'on pouvait monter le matos.
Il y a un dénivelé de 100 mètres voilà, à faire,
donc d'où l'utilisation justement des militaires pour faire parvenir ce matériel. Le début de l'histoire, c'est ça. Ça débouche bien entendu sur une histoire d'amitié, une amitié entre Amédée Fario, militaire donc qui ça plaît bien de faire ce genre de boulot, même si c'est vraiment crevant, hein, monter des caisses de 50 kilos quoi, par 40 à l'ombre en plein soleil en été, et puis ensuite continuer en pleine neige, c'est pas mal. Et de Camille Perroulet, qui est le responsable civil de l'installation de ce télescope, de ce dôme, et qui va être chargé après de l'utilisation, hein, l'observation des étoiles, donc dans ce dôme du pic du midi. Et tous les deux sont fans de vélo et suivent donc avec assiduité les récits qui sont faits dans le magazine, dans le journal Loto, l'ancêtre de l'équipe, qui s'est appelé Loto à partir de 1897, je crois, qui a organisé le premier Tour de France. Donc c'était en 1904 ou 1905, me semble-t-il. Je crois que c'est avant 1901. Donc parce qu'avant ça s'appelait pas le Tour de France, c'est pour ça il y avait une course déjà, ah, quoi, mais ça s'appelait pas le
centenaire du Tour de France là il y a deux ans, je crois.
Oui, mais ça s'appelait pas, c'est avant, c'est, il y avait déjà une course mais qui s'appelait pas le Tour de France. Okay. Ça. Et donc là on est en 1907 et donc ils suivent les comptes rendus des pionniers donc de ce Tour de France, et ça débouche sur une histoire où Amédée Fario commence à se prendre au jeu, à dire ah, putain moi aussi j'ai envie de faire ça, pourquoi pas, serait pas mal. Il commence à s'entraîner, manque de bol. Quand il est rendu à la vie civile là-bas dans ce trou paumé de Haute-Pyrénées juste au pied du pic de Milly, on va dire, là où il habite, et où une donzelle lui fait des yeux doux, mais enfin il la regarde pas, préfère lire l'équipe les comptes rendus de cyclisme plutôt que regarder la nana, enfin bon tu vois le genre quoi. Et pour payer sa bicyclette, il veut s'acheter une bicyclette, faire le Tour de France, et pour payer sa bicyclette, eh bien, il se dit, bah, je vais faire porteur civil, hein, porteur, ça se faisait dans le temps, pareil, hein, pour monter du matériel, pour monter le ravitaillement, justement, au pic du midi, ils avaient besoin de mecs qui étaient payés l'équivalent de 150 balles par jour, un truc comme ça, quoi. Bon, c'était assez bien payé, mais fallait voir les conditions, monter par tout temps, 24/7 pratiquement, tu vois, et 365 jours par an, hein, puisque bon, il va les ravitailler un soir de Noël, et c'est là qu'a lieu l'accident qui le fait se retrouver dans une avalanche. Il tombe, il arrive à s'en sortir, mais ses pieds ont gelé, donc on doit lui amputer les 10 orteils des pieds. Et là il commence à avoir de sérieux problèmes. Son très cher ami Camille Perroulet, le patron de l'observatoire, eh bien, décide de l'aider, donc lui fabrique des prothèses, hein, qui vont lui permettre de marcher à nouveau, puis de monter sur la bicyclette, et il va commencer à pouvoir pédaler, et il va s'inscrire à son premier Tour de France qui courra en 1912, qui s'achève assez lamentablement, parce que bon bah ok, il est pas du tout au courant, et puis bon, il se prend gamelle sur gamelle, une gamelle lui est fatale, il décide d'abandonner. Le tour suivant, c'est en 1913, là ça marche plutôt bien pour lui. Malheureusement, comme il est toujours inscrit comme coureur isolé, il y avait deux catégories de coureurs, ceux qui étaient engagés par les fabricants de vélos, et qui étaient déjà les ténors de l'époque, hein, qu'ils soient français ou étrangers, et les autres qui arrivaient comme ça avec leur vélo, avec leur machine, et qui étaient isolés. Il n'y avait pas les mêmes règlements selon qu'on était coureur d'usine ou coureur isolé. Alors là, c'était encore plus compliqué. Et c'est pendant le tour de 1914, hein, là, qu'il décide le tout pour le tout, l'étape fameuse Tourmalet, arrivée à Luchon et tout. Malheureusement, il est dans les deux premiers, pratiquement au sommet, et c'est lors de la descente qu'il se pète lamentablement la gueule, et qui ravage sa bicyclette irréparable, donc le tour terminé, et puis lui qui rêvait de pouvoir brandir le bouquet et l'offrir à sa bien-aimée, eh ben, il va être un petit peu désappointé. Et la fin de l'histoire, c'est un petit peu triste, hein, parce que pendant ce tour, le dernier tour qu'il court, c'est le tour de juillet 1914, et eh bien bientôt, le mois suivant, il se passe un événement qui aura une portée mondial.
Non, c'est ce mois-là. L'assassinat du duc.
France Ferdinand, c'est en août.
La déclaration de guerre est en août.
Enfin bon, c'est pratiquement en même temps. La fin est un petit peu dure, hein, je trouve, hein, personnellement. Mais enfin, il y a une analyse assez fine, hein, je trouve, des différents personnages et différents caractères. Les journalistes déjà qui sont déjà démontrés dans ce livre, c'est-à-dire dépeints au début du siècle comme étant des rapaces sans scrupules, des enfoirés de première. Les organisateurs du Tour de France, c'est-à-dire les officiels du journal Loto, sont également des enfoirés. Sans scrupules, hein, qui sont là pour le spectacle, tout pour le spectacle, faut que ça marche à fond les manettes. Ça date du début, enfin, c'est supposé être au début du siècle. C'est vraiment un bouquin excellent, vraiment très très beau. Ça se lit très facilement. En plus, le dessin est assez simple, assez clair. Il n'y a pas 36 000 couleurs, hein. Il y a deux teintes, une teinte chaude et une teinte froide, on va dire, hein, qui sont majoritaires au niveau du récit. Et ça marche très très bien de toute façon, quoi. Et avec une fin qui, bon, est un peu dure, quoi, je trouve. Assez immorale en plus, hein. C'est assez immoral, hein, parce que bon, je vais pas vous révéler la fin. Ça vous fera acheter le bouquin. C'est un petit peu immoral quand même, je trouve, quoi. Là, la façon dont lui termine. Hein, et bon, mais c'est pas mal quand même, franchement. Lax, l'aigle sans orteil, voilà.
Voilà. Je vais te le taxer d'ailleurs.
Vas-y. Et moi, j'aurais deux mots à dire sur Christian Lax. Il a fait en solo Chien de fusil, qui était un témoignage. Sur la guerre civile irlandaise, mais actuelle, d'un point de vue d'un photographe qui est impliqué dans l'histoire. C'était assez étonnant. C'est chez Vendouès, ça a 8 ans. Il y a Le Chouka, qui est une série.
Le Chouka, ouais, c'est ça.
Série détective amateur de 50 ans, adepte de la série noire. Et je sais que toi, t'avais trippé dessus. C'est vraiment excellent. Et à côté, il a fait avec Franck Giroud, donc le scénariste qui a fait entre autres.
Je sais plus non plus. On l'a interviewé en plus à Angoulême.
Et donc, il a fait Les Oubliés d'Annan, qui parle donc du Vietnam, si je me souviens bien. Azraïen, un album double sur la guerre d'Algérie, qui était très 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 fort. Et
L'Archer, non?
Non, Louis Laguigne. C'est Louis Laguigne que Franck Giroud s'était fait connaître et donc on en a parlé. Donc voilà, Christian Lax, ouais. L'aigle sans orteil dans la collection Air Libre chez Dupuis, et ça tombe bien, hein, cette saison. Je voulais passer un morceau, on n'aura pas le temps. Ah bah oui, c'était le Tour de France. De Kraftwerk, tant pis.
Bon, on peut laisser filer quelques secondes.
Ouais, ouais.
Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France.
supplément week-end sur Radio FMR, et midi 50 minutes, hein, Thomas?
Ouais. On va enchaîner avec le cinéma.
Ok.
Bon, alors, bien. Pas mal pour le fond sonore. Bon, merci beaucoup pour le cadeau, mais tu m'as flingué ma chronique, là. Parce que j'avais... Bon, là, tant pis, je vais changer un peu l'optique. Alors, en fait, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Donc, hier, j'appelais Xavier. Oui, il faut préparer la chronique de demain. Xavier, ah, mais non, mais abandonne ce que tu voulais faire. Tu le fais la semaine prochaine parce que j'ai une petite surprise pour demain.
Non, c'est toi qui voulais faire pour demain, pour aujourd'hui, une spéciale plage et que voilà. Ça soit la dernière de la saison. Je lui ai dit, non, on décale.
Voilà, donc Xavier me dit, oui, j'ai un truc de prévu, une surprise, je peux pas t'en parler. Voilà, et donc faut préparer autre chose. Ah bon, alors pour le lendemain, faut préparer autre chose. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais à mon disquaire à côté de chez moi pour essayer de voir s'il y a des sorties DVD avec des films dont je n'aurais pas parlé à l'antenne mais que j'aurais vu néanmoins. Et en fait, bon, il n'y a pas grand chose, il y a Dalton, mais bon, non, je rigole. Et puis, tu me connais, j'arrive vers le coin cinéma asiatique, et puis j'arrive à la collection Asian Star, dirigée par Jean-Pierre Dionnet, et puis à côté de Super Inframan, qu'est-ce que je vois? Un film de Soyark, La Légende de Zou. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je mets 20 euros là-dedans. Quoi, qu'est-ce qu'il y a du sport?
Non.
Alors je mets je mets 20 euros là-dedans, qu'est-ce que je fais? Sachant que la jaquette est absolument hideuse, on dirait que le graphiste il a pris des gros plans en les zoomant à mort, en faisant des petites retouches numériques. Bon,
après tout, c'est la légende de Zou.
Ouais. Bon, tu sais que je vais me mettre en 4 pour essayer des chroniques intéressantes et puis essayer d'apporter un petit peu de fun en plus dans ton émission, mais là j'ai quand même une DVD Tech dont la réputation est à faire encore, hein. Et donc là je me suis dit ça va dépareiller dans la DVD Tech. Et là je me suis rappelé que j'avais Black Mask 2 et que du sport avait fait passer pour le nanar de la semaine il y a quelques émissions. Alors qu'est-ce
justifié.
Que je... Oui. Alors, je confirme, une immonde de bouse. Et finalement, ça va pas déparier.
C'est rigolo quoi, mais bon.
Ouais, avec le Black Mask qui se transforme en espèce de singe butant à un moment donné. Il faut savoir que Sawyer qu'il a réalisé à la même époque, hein, La Légende de Zou. Alors je regarde un peu la jaquette et puis je vois, bon, le casting, on dirait qu'il tient la route. Il y a Zhang Ziyi, il y a Eken Cheng qu'on avait pu voir dans Storm Riders. C'est déjà un film d'heroic fantasy avec beaucoup de numérique et Sawyer qui avait été jaloux. Ouais, il n'y a pas de raison qu'il fasse du succès. Moi aussi, je vais recycler Les Ouliers de la Montagne Magique qu'il avait fait en 82. Donc il fait cette suite. Et il y a aussi Sammo Hung dans le casting. Alors moi, je me dis, bon, ça peut être intéressant. Je retourne le DVD, puis derrière j'apprends que c'est l'histoire d'un méchant qui veut se poser la terre et le méchant s'appelle Insomnia.
Alors, je dis, mais c'est moi le méchant.
Et il a peur que le spectateur s'endorme, alors il appelle Insomnia. Enfin bon, je dis ça y a catastrophe. Bon, je l'ai pas acheté, hein, t'as bien compris. Donc finalement c'est l'occasion de faire une chronique pour une fois sur un film que j'ai pas vu. Et là je rentre chez moi et puis je me dis, bon, finalement on va faire quand même une chronique qui tient la route. Et je me suis rappelé qu'il y avait la fête du cinéma ce week-end qui commence demain, qui se déroule également lundi et mardi. Donc on va rappeler le principe on rappelle le principe de la fête du cinéma. Donc vous achetez le premier ticket avec la place à tarif plein et puis ensuite ça vous donne le droit d'acheter les places à tarif super réduit à 2 euros pour voir tous les films géniaux qui passent en ce moment pendant la période de l'été.
Super.
Et comme par hasard, il y a aucun film au repas.
Et non, on en parlait avant.
Ouais. Comme quoi la merde, ça vaut vraiment cher. Mais alors qu'est-ce que ça rapporte?
Donc voilà, je vous ai dégoté une petite liste, mais bon, elle est pas exhaustive, et puis c'est que mes goûts perso. Alors on commence par Amityville, la maison de l'horreur. Donc un remake, réalisé par Andrew Douglas avec Ryan Reynolds et Melissa George. Alors j'en profite, du sport est en face de moi. Melissa George, on l'a vu dans quoi? À la télé.
Ah, oh, là, la colle, il me pose la colle.
Et oui, parce qu'en plus, c'est une série que j'adore et dont tu ne parles jamais. C'est Alias.
Alias, ouais.
Et Melissa George, elle jouait l'épouse de Michael Vaughn dans la série qui vient d'être diffusée, enfin la saison. Et donc, c'est un film, donc Amityville, un remake produit par Michael Bay. Alors en ce moment, il se fait l'apôtre des remakes. Il avait déjà produit Massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, c'est marqué sur l'affiche, hein, par Michael Bay, le producteur de Massacre à la tronçonneuse. Et donc, il va aussi produire les futurs remakes de Hitcher, dont l'original était avec Ruggy, Reggie Rower, hein, du sport, et Les Oiseaux. Il a pas peur, le mec, hein.
À mon avis, est-ce qu'il osera passer avec une meute de chiens hollandaise au tout début, enfin, bon,
oui, petit clin d'œil. Et donc, bon, il a une actualité assez chargée, Michael Bay, puisqu'il est le réalisateur de The Island, un film de SF avec Ewan McGregor qui va sortir, je pense, au cours de l'été ou à la fin de l'été. Hein, c'est dans pas longtemps qu'il va sortir. Et il projette également de participer, alors je sais pas s'il va réaliser ou produire, l'adaptation live de Transformers.
J'ai osé regarder. Par dépit, hein, certains diront. Mais j'ai osé regarder pas Transformers, mais un truc de Super Sentai là, un groupe de jeunes.
France 5, Power Ranger.
Power Ranger 2 sur RTL 9. J'ai osé le regarder.
Film.
Le film.
Ah mince.
Mais il est poilant. c'est là où les mecs ils ont dû se dire bon, les parents ils sont traînés par les gamins, ils ont pas forcément envie d'être là. On va leur mettre du truc qui les fait poiler. C'est pas mal.
Alors, tant qu'on est dans la veine des slashers de l'été, on a aussi La Maison de Cire de Raume Colesera et bon, il faut savoir.
Ouais, avec Paris Hilton.
Ouais, Ginny Barr, la blonde.
Et Elisha Cuthbert aussi, Kim Bauer.
Ah oui.
On est aussi dans le film.
D'accord, une belle brochette de blonde. Hein, c'est
oui,
vrai.
Oui. Et puis, apparemment.
De fille à papa, c'est le cas de le dire.
Aussi, ouais. Et voilà, apparemment, le film il jouit d'une assez bonne réputation en France.
Y a pas Jessica Biel dans celui-là?
Non, je crois
Jessica
pas.
Jessica Biel, elle est bien dans les films d'horreur en plus. Je crois qu'elle est dans Massacre.
Et puis, en même temps, couler
une blonde aussi.
Non, c'est une brune.
Et puis en même temps, couler une bielle.
Elle est peut-être.
Non.
Ah peut-être.
Ouais, non, mais elle est facile celle-là. Attends.
Ah, d'accord. Oui. Qu'est-ce que je. Oui, c'est un film produit par la société Dark Castle, la boîte de prod qu'ont monté Joel Silver et Robert Zemeckis. Alors, faut dire que. Ah oui, ils avaient fait pas mal de films qui sont passés relativement inaperçus dans le Kassovitz, hein, Gothica. Voilà, donc c'est. Alors, moi, mais je travaille mes enchaînements, puisque bon, ça va faire un an que je fais les émissions, et puis bon, on va dire, on va apporter un peu de tenue à l'émission. Alors, si vous aimez Elisha Cuthbert, vous pouvez toujours aller voir The Girl Next Door. Ouais, réalisé par Luke Greenfield et où elle interprète une ex-star de film X. Alors apparemment, on voit pas trop de plans qui pourraient choquer les petits Américains, mais c'est pas mal chaud quand même, d'après ce qu'on va dire. Alors moi, c'est festival de films que j'ai pas vu.
Parle pas de chaleur par ce temps.
Voilà, donc dans le même registre, on a aussi Babysitter avec Vin Diesel.
Ouais.
Sans transition, réalisé par.
Qui rappelle un petit peu un flic à la maternelle, voilà. Tu sais, le film de Ivan Reitman avec Schwarzenegger, ouais. Hein, qui était assez rigolo quand même, quoi. Ouais. Et c'était l'époque où justement, il venait de faire Terminator, je crois, il venait de faire des films vachement durs, et il voulait un petit peu casser le rôle,
faire
un
image.
Truc complètement à contre-emploi, film qui d'ailleurs était produit déjà à l'époque par De Vito.
Ah.
De Vito, producteur de films qui ont pas mal marché, on va dire, hein, des petits trucs comme ça, pas des blockbusters monstrueux, mais des petites comédies sympatoches, et qui en plus relèvent un petit peu le niveau. Hein. Mmh,
comme quoi les non-producteurs, ça. Et donc, dans l'affiche, Vin Diesel, il y a marqué son nom de code est Choc Nourrice. C'est un truc qui nous avait vachement fait rire. Voilà, bon, évidemment, vous avez le gros poids lourd, Batman Begins. Dont je n'ai pas eu l'occasion de voir, et puis on ne va pas en parler à l'antenne. Donc, du coup, c'est réalisé par Christopher Nolan, réalisateur de Memento, avec un casting de fou quand même. Hein. On a Christian Bale, Cathy Holmes, Gary Oldman, Liam Neeson et Michael Caine dans le rôle d'Alfred, le majordome.
Et Rutger Hauer.
Il y a Rutger Hauer aussi.
Il y a Rutger Hauer aussi dedans.
Il a vu le making-of sur MTV2, lui.
Et Christian Bale, hein, de toute façon, ce mec, il est vraiment excellent depuis le début, depuis qu'il est tout jeune. Est-ce que tu sais quel est le premier film qu'il a révélé, en fait?
Non.
Il a quand même été révélé dans un film de Spielberg, le film le moins connu, on va dire, de Spielberg.
141.
L'Empire du Soleil.
Ah. Oh oui.
Ah ouais, le jeune garçon qui est le héros de ce film, en fait, c'est Christian Bale.
Ah.
Voilà.
Superbe épopée dans la Chine occupée par le Japon en pleine débâcle.
Voilà, c'est pas mal, c'est vraiment c'est pas mal, quoi. Et là, bon bah ok, il est découvert parce que bon, généralement Christian Bale, on le dit, c'est l'acteur qui joue American Psycho.
Ouais.
Voilà, alors que bon, il a commencé vachement plus jeune, ce mec.
Ah, c'était lui?
Ben oui.
Oh, putain,
il joue également le rôle du méchant dans le très caricatural Shaft, pas l'original.
Avec Samuel Jackson.
C'est lui le méchant. Hein.
Ouais.
Ok, il joue également dans The Machinist, je l'ai pas vu, mais enfin,
et
il paraît que c'est
et
vraiment
Equilibrium
très, très
aussi.
Equilibrium, enfin, il a fait pas mal de, ouais, de rôles comme ça, mais bah, bon.
Abonné au film de genre.
Ouais, 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 tranquille, tranquille.
Et donc, bon, c'est l'occasion de voir encore un film de super-héros pendant la fête du cinéma, et puis il faut dire qu'on est assez habitué, on avait vu déjà Spider-Man 1 et 2, on avait vu Blade, donc à chaque fois, la fête du cinéma est l'occasion de compléter votre culture de super-héros à l'écran.
À mon avis, c'est que les Américains, ils sortent les films de super-héros au printemps pour les adolescents boutonneux qui bourgeonnent. Et qui n'osent pas embrasser les filles parce qu'ils ont plein de boutons. Manque de bol, quand ça arrive en France, c'est le début de l'été, et hop, fête du cinéma. Ça tombe bien, on va ruiner Eric. Hein.
Voilà. Et puis, bon, et puis c'est.
Non, c'est nul. D'accord, ok, je sors.
Pas capté, non, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les couilles de les sortir pendant l'été en se disant qu'ils vont être en concurrence avec des blockbusters qui vont être plus généraux de trucs généraux. Et quand on sait que sur l'ensemble des films tirés des super-héros de l'univers des comics, très peu ont vraiment marché. Hein. Hein, c'est vrai, hein, y en a pas mal qui se sont cassés la gueule, hein, des super-héros. Il y en a qui marchent.
Captain
parce
America
que, bon, on a commencé à mettre de la qualité dans la production, dans la réalisation et dans l'esprit. Hein,
ouais.
Dans l'esprit dans lequel ça devait être fait en fait,
ouais, comme
là
Electra,
ça commence à marcher, hein, mais bon, la majeure partie de ces films c'est cassé la gueule, hein, donc c'est pour ça que c'est un petit peu frileux à mon avis.
Ouais, ouais, ouais. Et puis oui, enfin bon, de toute façon, en plus quand les producteurs ils décident que tel genre ne marche pas, il faut attendre un peu quelques années ensuite pour voir les suites.
Une génération, généralement.
Génération. Et puis bon, vous avez toujours les autres poids lourds dont on avait déjà parlé dans cette émission. C'était Sin City et Star Wars épisode 3 que je crois, Xavier, tu n'es toujours pas allé voir. Non, toujours pas. Non, tu réfléchis, non, toujours pas. Bon, mais il faudra que tu ailles le voir.
Non, non, pour moi, je sais pas, Star Wars.
Oh, va voir le 3.
Première trilogie.
Va voir le 3, franchement.
Je sais pas, pour moi, c'est synonyme de vide.
Ah.
De blanc. Oui, je sais pas, de blanc intergalactique, quelque part. Non, mais si j'ai éteint la machine à effet, évidemment, ça marche pas. C'est con.
Voilà, c'en est fini de ma chronique cinéma sur la fête du cinéma. Vous pouvez aller voir d'autres films dont je vous ai pas parlé, mais comme Madagascar, Lemming et autres. Et puis autres poupées russes.
D'accord, ok. Bon, ben moi je vais chercher une ouverture comme ça de générique télé.
Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui?
Je sais pas, là c'est un peu au hasard.
Au pifomètre.
Ouais, au pif.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir après Nip Tuck?
Bon, bah, attends, parce que moi j'ai quand même une rubrique DVD. Hein,
ouais, mais tu vas commencer quel genre pour me donner une indication là sur.
Ouais, non, il y a ces transgenres là, on va dire.
Oh, d'accord, ok. À ce point.
Ouais.
Ok.
Iggy Pop.
Les oiseaux de l'espace.
Gagné. Du sport fait la mousse sur la
non, non, non,
sur
non,
la pendule.
C'est pas mal, c'est un très bon exemple, hein, de reconversion réussie pour les rockers et pour les vieux rockers pratiquement à la retraite.
Faire des génériques.
Parce que ça, c'est le générique des Zinzins d'Espace, hein, c'est un truc pour les mômes. Il faut savoir qu'il y a un autre mec qui est très très fort dans le registre musique de dessin animé, musique de série animée pour les gamins.
Daniel
c'est
Fman.
Mark Mothersbaugh. Mark Mothersbaugh, regardez bien au générique, hein, de pas mal de dessins animés relativement récents, même des plus vieux. Mark Mothersbaugh, c'est un des leaders du groupe qui a fait parler de lui dans le début des années 80, fin des années 90, groupe qui venait d'Akron, en Géorgie, aux États-Unis, et qui s'appelait Devo. Et qui avait fait une reprise absolument magnifique de I Can't Get No Satisfaction et autres perles de ce genre. Et
c'était le guitariste de Devo.
Voilà, c'était l'un des deux frères. Ils étaient deux frères dans ce groupe de quatre, les frères Mothersbaugh. Et Mark Mothersbaugh, qui était un petit peu la tête pensante et qui écrivait pas mal de musique pour ce groupe, eh ben, il s'est bien reconverti et je peux vous assurer qu'il a fait bien, j'en ai repéré trois ou quatre, hein, sur les différentes chaînes de jeunes. Le générique, c'est Mark Mothersbaugh. Donc, vous voyez qu'on peut arriver à des reconversions complètement réussies.
Et on applaudit quand même du sport pour cette impro totale, là, quand même. Ça, c'est du pro, Thomas.
Alors, par contre, ça tranche complètement avec la rubrique DVD. Donc, je pensais que t'allais parler de quelques DVD qui étaient sortis ou que t'avais acheté. Bon, ben, enfin, ouais, c'est vrai qu'avec la légende de Zouk.
Oh, ben, oh. C'est mais pas, c'est pas rivalisé.
Non, mais je vais simplement te. Ça te fera de la lecture pour l'été et je vais te filer la collection complète de HK Vidéo de telle manière à ce que tu puisses réorienter ta culture et surtout réorienter tes achats futurs.
Ça, d'accord. À mon avis, c'est qu'il est en train d'attaquer la peinture dans le salon et qu'il a besoin de déplacer une partie de sa collègue.
Non. Et j'y tiens comme la prunelle de Messier. Oula, non, parce que là, attention, c'est quand même un des monuments de Sam Peckinpah qui sort. Faut savoir qu'il y a pas mal de films de Peckinpah qui sont pas disponibles en DVD. Hein, cherchez pas, hein, vous les trouvez en cassette. Et encore des fois, c'est pas top. Là, ben, c'est quand même l'un de ses films les pas trop connus de lui. Hein, qu'on passe pas trop souvent et c'est un peu normal vu le sujet et vu l'ambiance générale du film, c'est Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Et là, en fait, en plus, ils ont bien traduit, hein, parce que le titre original, c'est Bring Me the Head of Alfredo Garcia. C'est le titre du film original. C'est un Peckinpah qu'il a fait un petit peu après The Wild Bunch, la Horde Sauvage. Donc ouais. Mais qui déjà on voit que Peckinpah il cherche à rompre hein, dans son espèce de technique narrative, ça part un petit peu différemment et c'est surtout habité par le personnage principal, c'était son premier rôle principal en plus dans un Peckinpah de Warren Oates quoi. Warren Oates qui est absolument géant, absolument magnifique hein dans ce film, c'est lui qui joue le rôle du héros principal, Benny, qui au début, enfin qui émerge d'une longue beuverie comme d'habitude. Hein. De toute façon, le tournage s'est passé de la façon suivante. Hein. Ils étaient bourrés les deux. Il y en a certains dans d'autres, mais du matin au soir, Peckinpah ou Warren Oates. Peckinpah, il a toujours aimé les acteurs qui mettent bien boire et bon, qui tenir la route aussi également comme lui. Donc bon, bah, là avec Warren Oates, il avait un sérieux client. Ça, je peux vous le dire, tranquille. Et Warren, ils sont d'ailleurs restés potes hein, jusqu'à la mort de Peckinpah. Ils sont restés super potes de toute façon. Et Warren Oates dans ce film, Benny donc, trouve une opportunité de gagner du pognon pas cher. Hein. C'est un contrat qui a été lancé par un caïd mexicain veut venger l'affront fait à sa fille. En fait, c'est un mec qui a couché avec sa fille et puis bon, le mec se fait dézinguer et il se fait dézinguer, mais bon le problème c'est que bon bah il est pas sûr du coup et donc pour assurer le coup, pour être sûr que son honneur a été sauf, il dit ramenez-moi la tête d'Alfredo Garcia et je donne 100 000 $ à celui qui à l'époque 100 000 $ c'était une belle somme et donc c'est l'histoire donc de Benny qui se dit bon bah ok c'est cool tranquille je vais aller choper la tête, je lui ramène et puis le tour est joué, j'ai du pognon, mais seulement ça va pas se passer de cette façon là tout à fait, parce que bon bah Benny est déjà un mec qui est au bout du rouleau, assez suicidaire on va dire quand même par certains moments, carrément très très cynique, l'ensemble du film a d'ailleurs un ton très cynique hein, c'est dans la veine de la Horde Sauvage de toute façon sans problème et c'est surtout habité par Warren Oates qui est géant brillantissime dans ce film, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia donc de Sam Peckinpah avec très peu de bonus, mais on s'en tape de toute façon. Non, il y avait un bon bonus, c'était sur le DVD de La Horde Sauvage, c'est le
documentaire.
Le documentaire qui s'appelle ouais. Wild Bunch, un album, une montage, qui est absolument excellent, hein, un petit documentaire d'une heure quand même, et puis qui vous montre le tournage du film, The Wild Bunch. Avec un espèce de... c'est vraiment très très bien
avec une voix off qui relayait les propos de Peckinpah et qui était édite par Ed Harris.
C'est vraiment très très bien donc de toute façon Wild Bunch vous l'avez certainement déjà, c'est pas la peine que je vous le dise hein. C'est le gros classique mais celui-là vraiment si vous ne le connaissez pas regardez-le, de toute façon ça se regarde au moins 10 fois sans problème hein. On trouve encore des trucs. C'est vraiment magnifique. Donc, apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Voilà. La deuxième partie de l'émission, j'aimerais bien que tu me mettes le disque là, la plage numéro 31, n'est-ce pas ? Hein, car on va revenir en arrière et on va carrément parler d'une série qui ne passe plus jamais, que je n'ai plus jamais vue à la télé et ça me désole. Donc, c'est un cri d'appel. Un cri. Tout simplement. Non, c'est pas maintenant qu'il faut la passer. Non. Après. Le gros spot quand même en ce qui concerne les séries, c'est.
Série Club.
Il faut que je vous le montre là.
Lost. Oh oui. Lost, la série de l'été qui va cartonner.
La série de l'été. Alors la série d'été, attention, c'est une série américaine. Alors là, quand même, grosse nouveauté. Attention. tambour sans problème, parce que c'est TF1 qui vous propose en prime time le samedi soir. Alors il faut savoir qu'il y a des accords qui sont plus ou moins implicites entre les différentes chaînes de télé, le CSA, d'autres qui sont implicites entre chaînes, on va dire, hein, clause de bonne concurrence, je sais pas trop comment ils appellent ça, hein, qui dit que on passe pas certains des films, de toute façon c'est interdit de passer un film sur une chaîne publique le mercredi soir parce que c'est le jour où sortent les cinémas en salle. On sait que le samedi soir également, pour ne pas concurrencer les cinémas
vendredi et samedi.
Vendredi et samedi, mais surtout le samedi soir, on ne peut pas passer non plus de films sur ces chaînes-là. On sait que la série américaine, eh bien, en prime time, c'est un genre qui ne fonctionne absolument pas sur quelque chaîne que ce soit. Il y a M6 qui a commencé à instiller ce truc-là il y a très longtemps.
T'as eu les chiffres à propos du passage de CSI à la place du Grand Prix de Formule 1, que M6 a porté plainte contre TF1 et qu'à TF1 publicité, il y en a qui doivent se taper la tête contre les murs. Ils ont fait 32% s'il vous plaît pour un passage impromptu de CSI, même pas annoncé à l'avance.
Non, mais je te parle des décennies précédentes, hein, je veux dire.
On
remonte à l'histoire de la télé.
On avait quand même Dallas le samedi.
On avait Dallas, mais ça remonte à quand? Ça remonte à 20 ans. Hein.
Ouais, bon, c'est vrai, ils sont arrêtés en 86.
Depuis, il n'y a jamais plus rien eu de ce genre-là, que ce soit sur les chaînes privées, sur les chaînes publiques, enfin sur le réseau hertien, bien entendu. Hein. Lost, donc, c'est quand même le gros barouf. Hein. C'est une chaîne qui, aux États-Unis, où elle a été diffusée l'année dernière, donc par la chaîne ABC, ramenait quand même 17,5 millions de téléspectateurs par, c'est la moyenne d'audience sur l'ensemble de la saison. Il y a 25 épisodes dans la saison, 17,5 millions d'audience avec un pic qui a été à 21 millions pour un épisode. Je me rappelle pas, bon c'est pas grave de toute façon, pour cette série qui s'appelle donc Lost, dont TF1 vous propose la diffusion à partir de ce soir, 20h55. Et alors là où je suis pas trop d'accord, vraiment, hein, là, il y en a qui vont dire du sport, il faut toujours qu'il râle, il est pas content. C'est que dès ce soir, on propose à la file 3 épisodes. On est vachement content.
Ouais,
3 épisodes à se manger à la suite, ça fait vraiment plaisir, parce qu'il faut savoir que les conditions de diffusion sur ABC, par exemple, où elle a été montrée pour la première fois, eh bien c'est le rythme traditionnel. D'un par semaine, toujours le même jour de la semaine.
Non, je crois que les deux premiers, c'est le pilote, donc il a dû être passé en une fois.
Le pilote est passé en une fois, c'est un épisode double, mais on passe jamais 3 épisodes à la suite, faut quand même pas.
Ah non, ça c'est M6 qui a inventé ça.
C'est du délire. Incroyable. Suivi par 2 épisodes de New York District, section criminelle après, quoi, disons. Bon,
il faut toujours que tu râles aussi.
Merci pour les amateurs, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Enfin, n'empêche que Lost, c'est une série qui a l'air de plaire. Pourquoi ? Parce que on va retomber dans une espèce de monde qui est un petit peu cher à un petit peu l'esprit de Michael Crichton ou des gens comme ça, quatrième dimension. Où le pitch est très simple, hein, de toute façon, hein, un avion s'écrase sur une île déserte, d'où bien une cinquantaine de passagers ressortent.
48, je crois.
Ouais, une cinquantaine, ouais. Hein, c'est pour arrondir. Sortent pratiquement indemnes, et sur ces 48 ou 50 passagers et passagères, on va s'intéresser au sort de 14 d'entre eux qui seront les héros principaux en fait de cette série. Les autres, bon bah ils vont servir de chair à pâté pour les futurs cadavres, les rebondissements, les machins, les trucs, les bidules, pour alimenter, tu sais, tout au long de la saison. Hein. Et bah il faut bien la matière.
Je sais ce que c'est qu'être un scénariste, un manque d'idées
fois. Parce qu'au départ, s'ils restent qu'à 14 sur une île, tu sais, faut quand même fumer beaucoup du cerveau pour pouvoir imaginer des situations. D'ailleurs, tu peux voir sur les photos de presse là, les photos de promo presse. Hein, ils sont 14, j'ai compté sur les deux. Hein, tu peux regarder là, deux programmes différents. Ils sont 14, c'est les promos de presse, donc avec des gens qu'on connaît déjà dans le monde de la série. Hein, on a quand même pris de l'acteur confirmé. Pourquoi ? Parce que c'est une série d'un certain J.J. Abrams. J.J. Abrams, alias, qui a fait aussi 24, il me semble.
Non, c'est pas lui.
Sorry. J.J. Abrams. Donc, au niveau des acteurs, eh bien, on a Matthew Fox quand même. Ouais, ouais, tu peux marquer plantage du sport. Matthew Fox qu'on a vu, c'était l'un des personnages principaux. Hein, c'était celui qui plaisait bien aux nanas parce que bon, bah, c'est vrai qu'il est déjà pratiquement adulte. Hein, c'est dans La Vie à 5. Hein,
ah,
c'est
oui.
Le grand qui faisait, qui aidait les plus petits et tout, qui montrait l'exemple, hein, tout. Et également dans une série un petit peu plus thriller, on va dire, qui s'appelle Haunted. Terry O'Quinn, on l'a vu dans Alias. Dominique Monaghan dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Evangeline Lilly dans Kingdom Hospital, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Il y a une diffusion assez rapide sur Canal Jimmy, me semble-t-il. Et surtout le grand, le magnifique Harold Perrineau, Augustus Hill, le mec en fauteuil dans Oz.
Ah oui,
voilà,
le Black. Ah,
qui joue également dans Matrix 2 et 3. Hein, bon,
les
frangins Wachowski, ils avaient flashé sur le rôle qu'il interprète et sur la façon dont Perrineau interprétait ce rôle de Augustus Hill dans Oz dans les premières saisons. Et bon, bah, ils ont dit celui-là, il nous le faut. Mmh. Il pouvait pas contractuellement être dans le 1, ça s'est fait trop tôt. Enfin bon, il y a eu des problèmes de délai, mais pour le 2 et le 3, de toute façon, il était déjà booké. Ce qui fait que on remarque que dans les dernières saisons, dans la 5e dans la 6e saison, il y a des absences assez prononcées d'Harold Perrineau qui en fait était déjà sur le tournage de Matrix 2 et 3 à la même époque. Il y a également Daniel Day-Kim qu'on a vu dans des rôles secondaires, on va dire, dans 24 et dans Angel. Il y a également Emily de Ravin qu'on a vu dans Roswell et Ian Somerhalder qu'on voit de temps en temps dans Smallville. Voilà, Lost, les disparus. Alors bon, bah, ça peut être intéressant, il faut dire, mais bon, je répète encore une fois, le rythme de diffusion, non, il faut arrêter avec ça, faut pas le faire, faut plus le faire.
C'est n'importe quoi.
Non, allez, d'accord. Le faites plus. Non, franchement. Enfin, la seule bonne nouvelle, en fait, de cette diffusion d'épisodes à la suite de Lost, hein, 3 épisodes à la suite, donc le premier à 20h55, le deuxième à 21h40, les deux premiers, en fait, c'est un double épisode, on va dire, hein, une histoire en deux parties, hein, c'est le format 50 minutes. Et le troisième à 22h30. Et donc la seule bonne nouvelle, eh bien, c'est que New York section criminelle va pouvoir commencer à l'heure indiquée, 23h15. Là, on est vachement ravis parce que, mine de rien, la semaine dernière avec la ferme, il y a quand même eu 20 minutes de décalage. C'était pas mal.
20
c'est pas le record, mais c'était pas mal. Celui-là, ben, quand même, avec du beau linge, hein, pour le premier épisode inédit de New York section criminelle, il y a Carrie Preston et surtout Sam Robards. J'ai oublié de vous en parler les deux dernières semaines, et pourtant ça fait pas mal de temps, hein, qu'on voit sa tronche un peu partout, même sur les culs de bus, je crois, hein, c'est Linda Gray. Linda Gray, qui sera marraine du prochain festival country de Mirande, qui a lieu, je crois, milieu juillet, me semble, hein. J'ai pas trouvé.
C'est qui Linda Gray?
Hein, Linda Gray,
Forcément, c'est une actrice de série américaine qui prône la American Way of Life.
Attends, parce que Linda Gray, c'est quand même Sue Ellen,
exact.
Qui va être à Mirande. Sue Ellen,
merde, mon dieu, planqué le whisky.
Bah, il y avait déjà eu Larry Hagman, hein, qui était venu dans une précédente édition.
Il y avait Larry Hagman. Je sais, j'ai un pote qui avait eu également son Steve Canali qui était venu un petit peu avant. Hein, Steve Canali qui jouait le rôle de.
Dis plutôt que tu es pas loin, que tu fais un saut quand même.
qui joue le rôle du régisseur là, tu sais, Steve Canali là, le mec qui se tape Lucy.
Je regardais jamais moi. je connais pas la série.
Ah bon, tant pis. C'est dommage. Linda Gray, qui est également la patronne de l'agence dans Models Inc, une agence de modèles, une série, hein, qui s'appelle Models Inc, dans laquelle, eh bien, on a vu une certaine Carrie Ann Moss. hein, avec Linda Gray comme patronne, hein, c'est pas mal, hein. Sinon, au niveau des experts, hein, il faut savoir que il y a eu dernièrement 30 millions de téléspectateurs pour la diffusion du double épisode de clôture de saison sur CBS Las Vegas.
Allez, dis qui c'est.
Tourné par Quentin Tarantino. C'était sur CBS.
T'étais pas au courant, toi? Parce que Quentin Tarantino, il est super hype pour les séries à succès.
Oui, je sais qu'il avait déjà réalisé des épisodes un épisode d'Urgence et des épisodes d'Alias.
Ouais, et donc là, ça a été un double épisode. Enfin,
voilà, un double épisode de clôture, hein, c'est-à-dire que bon, généralement dans ces séries-là, il y a plus ou moins des cliffhangers pour qu'on accroche tout de suite le premier épisode de la saison suivante. Et là, bon, bah, c'est donc ça a été tourné par Tarantino. Nous, en France, on va le voir. l'année prochaine, et encore si t'es gentil. D'accord. Par contre, si ça vous intéresse de savoir la jeunesse et de remonter un petit peu vachement loin et d'essayer de profiter pour une fois que on vous dit le rythme et l'ordre de diffusion, c'est pas mal parce que le pilote de cette série, c'est la série originale des experts, ouais. Hein, celle avec William Petersen, hein, CSI Las Vegas. L'épisode pilote donc est diffusé mercredi prochain à 23h20 sur TF1. Tu sais qu'ils diffusent des épisodes, deux épisodes tous les mercredis soirs en fin de soirée. Et ben mercredi prochain, on a droit au pilote, c'est le tout premier qui a été diffusé.
Maman, si par hasard tu m'écoutes, c'est pas la peine de m'appeler à cette heure-là.
De la nouveauté avec toujours de la série. Un Canal Plus qui essaye de nous faire déguster son programme du jeudi soir à coup de séries nouvelles et inédites. Là, c'est une histoire de FBI avec Line of Fire, une série qui date de 2003, hein, qui sera diffusée à partir de jeudi prochain, 20h55, sur Canal Plus. Deux épisodes par jeudi, il y en a 13 au total. L'histoire des jeunes bleu-bits du FBI, hein. Avec une majorité de nanas, donc c'est là que ça peut être intéressant. Hein. Les nanas sont
toujours,
plus présentes que les mecs. Il y a quand même des mecs, mais il y a les nanas et qui sont des bleu-bits au FBI. Et en fait, une de leurs premières affaires et tout, c'est de charger d'essayer de décaner un grand ponte de la mafia.
Donc,
bon courage les filles, bon courage les gars. Avec ouais. Leslie Bibb qu'on a vu dans ER, dans Urgence, jouait le rôle d'une étudiante en médecine. Jeffrey Dee Sams, on l'a vu dans New York Law and Order. Leslie Hope, on l'a vu
dans 24.
C'est Madame Bauer, celle qui se fait dézinguer. Hein.
Ouais. Oh, spoiler.
Ah ouais, quand même, faut pas déconner.
Quoi. Allez, deuxième spoiler de la journée.
Allez, voilà. Et là, c'en est fini, je crois, pour les spoilers en ce qui concerne les séries, mon gars. Hein. Parce que on va revenir loin en arrière, hein, quand la télé n'était pas encore en couleur. Ou que on se tapait des épisodes en noir et blanc parce qu'on n'avait pas la télé couleur, alors que les épisodes ils étaient tournés en couleur bien sûr, hein, parce que les Américains avaient vachement d'avance sur nous. Avec la diffusion, et là ça vaut le coup, ça va être fait dans l'ordre, donc on va pouvoir se le refaire dans l'ordre à raison de 4 épisodes par semaine, un par jour, sauf le mercredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi. The Invaders. Les envahisseurs.
David Vincent les a vus
avec Roy Tinas bien entendu dans le rôle principal, hein. Une série produite par Queen Martin, rappelle-toi Queen Martin qui fort du succès des Incorruptibles et du Fugitif, s'est dit on va pousser encore un peu plus mal le bouchon avec cette histoire complètement improbable d'envahisseurs. Eh ouais,
ah, grandiose. Là, je crois qu'on va déborder. Hein, si on...
C'est pas grave, c'est pas grave. De plus, c'est une série qui a relativement bien marché parce qu'elle est très compréhensible, parce qu'il n'y a pas 50 000 épisodes. En fait, il y a eu 43 épisodes de 50 minutes, hein, pas plus. Hein.
Et puis donc, surtout, ils sont en one-shot. Hein,
voilà.
On a un résumé au début, ça suffit.
Et il y a une fin, en fait.
Il y a une fin, bien sûr. Bien sûr,
oui,
qu'il y
a
une fin.
Fini comme catcher. Je confonds avec le fugitif.
Non. C'est un truc complet. Hein. Ils se sont pas arrêtés parce que la chaîne leur a dit c'est pourri, dégagé. Non, ils ont arrêté parce que c'était la fin.
Attends. On parle d'une époque où le producteur faisait la loi.
Où
le producteur remplissait les programmes et il était capable d'imposer ce qu'il fallait aux chaînes de télé sans souci maintenant.
Absolument. Et il faut savoir également que pour cette série Les Envahisseurs, The Invaders, a été réalisée pour la plupart et créée pour la plupart par Queen Martin, mais également par un certain Larry Cohen qui est très connu dans le monde du cinéma Z, hein, pour des films d'horreur qu'il a fait. Il a monté une société de production, je crois, de films d'horreur série B, série Z. Très connu quand même, hein, Larry Cohen. Quand même. J'essaie de ramener des titres. Il y a des titres qui sont très connus de lui en plus. Hein. C'est pas des conneries. Hein. 43 épisodes donc des Envahisseurs. Et une mini-série, ils ont fait un téléfilm qui est sorti en 96, mais qui est complètement nul,
irregardable.
Scott Bakula, il y a Roy Tinas qu'on revoit apparaître, mais comme ça, mais juste parce que il fallait que ce
fallait
soit crédible.
Faire le lien, ouais.
Mais c'est lamentable, ça a rien à voir, laissez tomber. Regardez pas ce truc-là, regardez plutôt la série originale, donc 43
avec
épisodes, avec quand même des putains de guest stars. Hein, il faut dire que au départ, la série, merde, c'est con, j'ai pas mes trucs, la série a été diffusée, je crois, en 65 aux États-Unis ou 66, 66 et en 69 chez nous. Comme on était encore en noir et blanc, On l'a regardé en noir et blanc pour la première fois, après ça a été rediffusé. Comme guest star quand même, Gene Hackman dans l'épisode Les Sports, le truc végétal, hein. Anne Francis dans La Soucoupe Volante, Michael Rennie dans Conférence au Sommet, et il n'y a pas une série où Césarbe, où il n'y a pas Roddy McDowall, ça c'est clair, de toute façon, hein. Roddy McDowall qui est le mec qu'on a vu plusieurs fois, il avait un rôle récurrent, mais enfin il a tenu plusieurs rôles dans La Quatrième Dimension, l'original, ouais, de Rod Serling, hein. Puis bon, après ça a été le spécialiste des rôles un petit peu déjantés, comme Anthony Perkins est resté le spécialiste de Norman Bates malheureusement pour lui, quoi. Roddy McDowall c'était un peu pareil, on le voit donc dans l'épisode qui s'appelle L'Expérience. Également Barbara Hershey qui à l'époque était bien jeune et bien bonne dans Le Miracle. À noter également que comme c'est la fin des diffusions vraiment top classe, on nous propose avant la rentrée pour se mettre en bonne bouche et les nouvelles diffusions de séries inédites sur Canal Jimmy, de nous rafraîchir un peu la mémoire avec par exemple Les Sopranos, dont on recommence la diffusion de la saison 4 sur Canal Jimmy demain soir à partir de 20h45 avec le même rythme, hein, deux épisodes par soirée. Voilà. Sinon, là, tu peux mettre le morceau là maintenant. Quoi. Ah. Maintenant, tu peux le mettre, tu vois quoi. Que sont-ils devenus ?
Oh oui.
C'est quoi ?
Chauffe.
On dirait du Morricone.
Donc,
ouais, c'est un appel au secours, hein. Si jamais vous apercevez cette série, hein, en noir et blanc, mais ça vaut le coup quand même, sur une chaîne, quelle qu'elle soit, je m'abonnerai, je m'en fous, pour pouvoir à nouveau la regarder. C'est une chaîne que je regardais quand j'étais tout gosse, hein, une série qui s'appelle Le Virginien, tout simplement, Le Virginien. D'après un roman de Owen Wister, un roman qui est sorti en 1902. Faut savoir que dans la culture littéraire américaine, le roman de western occupe une partie énorme, hein. C'est un genre qui est le genre qui se vend le plus, je crois. Hein, littérature Kedgar, littérature machin.
Tout comme la country,
chez nous, c'est un petit peu les polars, on va dire, à la limite. Et encore, hein, je suis gentil, on va dire. Mais là-bas, c'est vraiment le roman de western. Et donc,
tout comme la country, squat 50% des ventes de disques aux États-Unis. C'est la variété locale.
Le Virginien, donc, tiré de ce roman, tout de suite, le cinéma, bien sûr, s'en est intéressé. La première version, elle date de 1929, hein, c'est sous la direction de Victor Fleming. Et c'est Gary Cooper qui interprète ça, le rôle du Virginien dès 1920. Il y a également eu Joel McCrea qui a repris le rôle. Et ensuite, à la télé, il apparaît sous les traits de James Drury, le Virginien. Alors l'histoire, elle est assez proche, on va dire, des autres séries, hein, de grandes dynasties dans le monde du cowboy, dans le Far West, telles que Bonanza, High Chaparral, La Vallée, où des familles s'affrontent parce que ouais, y a des bêtes qui se sont égarées là-bas, non mais elles sont sur le terrain de l'autre et tout, attends, on va régler ça un coup de fusil. Enfin bon, c'est pas comme ça, mais bon, c'était un petit peu, c'est vraiment du roman de western. Donc c'est une série qui a quand même eu 225 épisodes, avec à l'époque un format complètement inhabituel parce que ça durait 75 minutes l'épisode, hein, 1h15 l'épisode. Et ensuite on est passé au format 90 minutes, il y a encore eu 74 épisodes. Alors outre James Drury qui lui, on a commencé à le voir au cinéma très jeune et déjà rebelle dans Graines de violence, justement, de Blackboard Jungle, le film de Richard Brooks, où il y a le fameux morceau de Bill Haley, Rock Around the Clock, qui a un petit peu déclenché, on dit que ce film a un petit peu déclenché la ferveur populaire pour le rock et pour ses excès. Déjà à l'époque, il a joué ensuite dans Love Me Tender, hein, Le Cavalier du Crépuscule, le film du King, avec le King en 56. Et ensuite, son troisième film, c'est Coup de feu dans la Sierra, 62 de Sam Peckinpah, James
toujours
Drury,
le même.
Donc,
toujours le même.
Et moi, ce qui m'avait vachement flashé, c'est que lui, il apparaît toujours. Il est en noir, complètement noir. Hein, le cheval est noir. Lui, il a la chemise noire, le flûte noir. Non, il a pas de masque. Et en fait, on l'appelle le Virginien. Et il tient un rôle un petit peu équivalent de celui des fils de Lee Jacob, qui joue le rôle de Angry Gart, qui possède donc le ranch de Shiloh, où tout se passe. Hein, lui, en fait, c'est un petit peu le rôle de régisseur, hein, c'est le patron, hein, qui dirige les cowboys avec Trainpass. Hein, Trainpass, c'est le contremaître joué par Doug McClure. Doug McClure, qu'on a vu après, bah, dans Bonanza également. Il y a également, et en fait, on ne connaît jamais son nom véritable, on ne sait pas comment il s'appelle. On l'appelle Virginian, on l'appelle Virginia, on l'appelle jamais sous son petit nom, on ne sait pas donc. Du fait, comment il s'appelle, du début jusqu'à la fin, c'est magnifique, c'est génial. Clou Gallagher également, il y a également John McIntyre et Tim Matson qui étaient tout gamins, tout jeunes à l'époque. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs époques de cette série, le Virginien, avec une première époque donc où il y avait Lee Jacob, James Drury bien sûr et Doug McClure. Dans la deuxième, eh bien Lee Jacob laisse sa place à Stewart Granger. Et on voit apparaître un certain Lee Majors dans le rôle de Roy Tett. Hein, c'est la première diffusion a eu lieu en 62. C'est aussi au niveau des vedettes invitées qu'ils ont fait assez fort, parce que bon bah il y a eu des acteurs qui sont devenus hyper connus par la suite. Hein. À l'époque, bah, ils jouaient plus ou moins les utilités. Hein, ils essaient de gagner du pognon comme ils pouvaient. Hein. Robert Redford dans Libéré sur parole, Fabian qui était un chanteur de charme à l'époque qui marchait bien, Charles Bronson
dans le rôle d'un Indien cette fois-ci,
James Farantino, tout ça bah, dans cette série qui s'appelle le Virginien qu'on a pu voir donc sur la deuxième chaîne en 1966. Production NBC Universal. Si vous retrouvez cette série, c'est la diffusée, faites-moi signe. Pourtant, j'ai plus, hein. Je peux vous dire que j'ai plus, hein.
T'as pas commencé, je sais pas, à écrire, non? Bon, d'accord, ok. Tu sais que du sport, là, t'es tout juste, hein.
J'allais oublier, concernant Linda Gray, on peut voir à la télé.
Ah, voilà, bah voilà, on a grandi le record, allons-y.
On peut voir à la télé lundi prochain, c'est mon seul film à la télé, un téléfilm sur RTL9 lundi prochain à 22h30 après un très bon Chuck Norris. Qui est pas du tout connu.
Ah bon, il a fait les dragons.
Ouais.
La fleur du dragon.
Le truc qui tue quoi. Attends. Le commando des tigres noirs. Ça commence par le commando des tigres noirs de Ted Post. Ted Post, le mec qui faisait Pendez-moi au cours. Qui avait fait l'épisode de Columbo dont on parlait la semaine dernière.
Ouais, exact.
Voilà.
Et l'inspecteur Harry aussi, il a fait, non?
Et Non.
Fessé.
Et ce commando des tigres noirs, en fait, hein, c'est un commando de mercenaires au Vietnam, hein, qui est trahi par Washington et qui tombe dans un traquenard et se retrouve encerclé par des soldats ennemis. Il y a également Ann Archer, Dana Andrew et James Franciscus. Alors là, faut regarder, il y a James Franciscus.
Yes.
C'est suivi par la confrérie de la mort, donc, hein, avec Linda Gray, justement, on a parlé avant. Eh bien, c'est l'occasion de voir sa tronche en 94, période donc post-Dallas. Hein, on sait plutôt ce qu'elle faisait. Il y a également David Lipper et Jane Galloway. C'est sur RTL9 lundi prochain à 22h30, après le commando des Tigres Noirs.
Du sport? Comme promis, je reviens à l'ancienne musique de transition, donc à Omnitrio, First Contact. Pour ceux qui ont loupé le début de Supplément Week-end sur Radio FMR, sachez donc qu'on a battu le record. Il est 13h32 minutes et 11 secondes. Près de 33 minutes de débord. Donc, vous pouvez réécouter Supplément Week-end sur le net, sur dascritch.net. Voilà, dascritch.net. Il y a toutes les émissions à enregistrer. Plutôt du sport décroché, parce que là, je suis en train de faire quelque chose. Sinon, donc, Thomas, pour ceux qui ont loupé le début de l'antenne.
Alors, vous avez loupé Xavier qui a fêté mon anniversaire en direct, le petit cachotier.
Ça se fait pas.
On a eu Xavier qui a spoilé les Valkyries, un plantage de du sport qui râle encore, encore une fois, à propos de la programmation TV. Du sport qui spoil 24, la série, la fin de la saison 1. Du sport, encore lui, balance sur le remake des Envahisseurs qu'il considère comme un ratage total. On a eu donc le record de dépassement et je me suis malheureusement fait fesser en direct car je connais mal mon inspecteur Harry illustré. Xavier, tu vas finir de ranger ton sac.
Ouais, ouais, tout
on
à
va
fait.
Y aller.
La suite des programmes, 15h, y'a qu'à rouler, c'est du reggae. 17h, vie d'ordure, c'est du punk. Back in 77. 17h30, de l'électro. 23h, de la jungle avec Blue Beat Experience. Thomas, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, une spéciale beach. Sous la tente.
Ah, bravo. Beach, tente, là, c'est double connotation.
Merde. D'accord,
on révisera. Du sport.